Sœur Marie-Emmanuelle, bonsoir, bienvenue sur Radio Maria France.
Bonsoir Jérôme.
Alors Sœur Marie-Emmanuelle, vous êtes dans un endroit qui n'est pas l'endroit habituel où vous faites les émissions.
Je suis derrière des murs dans un monastère. Et de fait, il faut bien dire que le réseau est un peu difficile. Alors vous m'avertirez si ça ne passe pas bien. Éventuellement, je pourrais demander aux sœurs de me donner leur téléphone fixe. Mais voilà.
Voilà, pour l'instant, on vous entend bien. Donc, je vous laisse la parole.
Pour l'instant, on m'entend bien. Voilà. Formidable. Voilà. Alors, Jérôme, la dernière fois, nous avions lu ensemble le début du chapitre 3 de Saint-Jean, puisque notre thématique cette année, c'est de méditer les rencontres personnelles que Jésus fait et qui sont relatées par l'évangéliste Jean. Et on avait commencé cette rencontre très belle de Jean avec Nicodème. On avait vu donc que Nicodème était un homme croyant, un homme sage, un homme cultivé, un membre du Sanhédrin qui connaissait bien la Bible et qui avait été interpellé par les paroles du Christ, qui n'avait pas osé l'aborder devant les autres, mais qui vient de nuit. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de reprendre ce texte qui est en fait une grande richesse, et puis tout spécialement aussi dans la lumière de l'incarnation de Noël. Voilà. Alors, je vous propose aussi, comme à chaque fois, c'est de commencer par une petite prière à l'Esprit Saint. On va lui demander de venir nous éclairer, mais aussi peut-être on peut lui demander un petit miracle technique pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes techniques. Voilà. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Oui, viens, Esprit Saint, viens pour nous donner la grâce d'accueillir les paroles de l'Évangile, les paroles du Christ, dans une foi vive, dans une grande ouverture du cœur et de l'intelligence, pour que ces paroles puissent déverser leur puissance de lumière vivifiante. Nous t'appelons de tout notre cœur, Esprit Saint. Voilà, la Vierge Marie soit aussi là pour nous aider. Nous avons une oraison dans la messe, une petite prière dans la messe de 30 décembre. Je vais repartir de là. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, alors que le péché nous retient encore sous sa voix. Donne-nous la délivrance par la prodigieuse et nouvelle naissance dans notre chair de ton Fils unique Jésus-Christ. Donc, dans cette petite prière, nous appelons de tout notre cœur Dieu, conscient que le péché nous retient et conscient qu'on a besoin d'être délivré, d'être sauvé. Et dans la foi, nous le disons, oui, donne-nous la délivrance par la prodigieuse et nouvelle naissance en notre chair de ton Fils unique Jésus-Christ. Or, si vous vous en souvenez bien, la dernière fois, et on reprendra le texte, Jésus parle d'une nouvelle naissance indispensable pour connaître Dieu, pour rentrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Et je vous avais même fait remarquer qu'en grec, c'est précisément la nécessité d'être engendré d'en haut. Donc on va reprendre ça tout à l'heure. Mais dans cette prière, manifestement, celui qui prie dans cette prière, il est conscient que c'est la naissance du Christ qui est prodigieuse et qui va permettre pour nous cette délivrance. La prodigieuse et nouvelle naissance en notre chair de ton Fils unique. Donc en fait, je reprenais une petite prière qui était dans une messe du 30 décembre, où dans la prière, on attendait la délivrance par la prodigieuse et nouvelle naissance en notre chair du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Voilà. Donc en fait, le mystère de Noël, c'est pas une jolie histoire charmante et qui va nous émouvoir d'un enfant qui naît dans une étable, c'est déjà quelque part le point de départ prodigieux de notre délivrance, de notre salut. Et quand on réfléchit, et c'est au mystère de Noël, il s'agit vraiment d'un mystère, de Dieu qui se fait homme dans un enfant, du Verbe lumière qui se cache, j'allais dire, dans la chair, de l'irruption de Dieu qui vient, qui descend dans la nature humaine pour nous rejoindre, pour vivre notre vie et pour nous sauver. Voilà. Et nous avions parlé, on va le reprendre, de l'irruption de la grâce qui correspond au mystère de la foi et de cette nouvelle naissance, mais on va reprendre ça ensemble. Mais déjà, ce que je voulais, c'était qu'on voit le lien, et on va le voir de plus près en reprenant les paroles de l'Évangile, le lien entre le mystère de Noël, qui est une naissance d'un enfant qui est en fait l'enfant Dieu, et le mystère de la foi, qui est pour chacun de nous comme une nouvelle naissance, comme une irruption de Dieu dans l'épaisseur de notre chair. Il y a un lien de cause à effet, si je puis dire. C'est parce que Dieu s'est fait homme que nous pouvons nous-mêmes partager la vie de Dieu. Voilà, c'est le mystère de la rencontre du divin avec l'humain. En Jésus, c'est la personne du bébé qui est la personne de Jésus qui est Dieu fait homme. En nous, c'est la vie de Dieu qui vient réanimer, reprendre, réilluminer toute une vie. Voilà. Alors, je reprends en relisant ce texte de Jean 3, sans trop commenter parce qu'on l'a déjà vu la dernière fois, mais quand même, je vais le reprendre un peu. Donc, j'ai resitué cet homme Nicodème qui vient le soir, qui se présente poliment à Jésus, et Jésus tout de suite lui dit « en vérité je te le dis, à moins d'être engendré d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu ». Parole qui confond Nicodème, qui ne comprend pas grand-chose, qui est secoué, Nicodème lui dit « comment un homme peut-il naître une fois qu'il est déjà vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Nous aussi, on a ces objections. Quand Dieu nous dit, quand Dieu nous s'invite et quand on commence à même entendre parler de la foi, d'une possible renaissance, on a des « comment cela peut-il se faire ?» Des questions... Le comment n'est pas toujours un comment de quelqu'un qui est de bonne volonté, il y a aussi tout le comment du doute. Comment pouvons-nous renaître? Et Jésus reprend, en vérité, je te le dis, à moins d'être engendré d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer au royaume de Dieu. La nécessité pour nous, pour nous ajuster à Dieu, ça va être vraiment un effort de bonne volonté, une grande droiture de cœur pour accueillir des choses qui nous dépassent. Donc, l'humilité de se laisser instruire, accepter d'être déstabilisé, d'être déplacé. Et effectivement, juste après, Jésus dit « Ce qui est né de la chair est chair. » Donc si tu restes toujours au niveau de ton humain, de tes raisonnements, ben, tu vas y rester. Ce qui est né de la chair est chair. Si tu ne te sers que de tes capacités humaines, tu ne vas pas parvenir à accueillir le mystère de Dieu. Et Jésus continue « Donc ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. » Il s'agit pour nous de naître de l'esprit, c'est-à-dire de nous laisser vivifier par l'Esprit de Dieu qui nous est donné. Ne t'étonne pas si je t'ai dit « il vous faut naître d'en haut ». Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Celui qui est né de l'esprit, il est tout étonné de ce qui l'anime, parce qu'il ne sait pas d'où ça vient, ni même vraiment où ça va. Mais il capte cet esprit, il capte ce souffle. Je crois qu'il y a quelque chose de ça dans notre vie chrétienne. On ne comprend pas tout, mais le vent souffle, on l'accueille, on entend sa voix. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Mais il y a cette docilité intérieure de se laisser émouvoir, de se laisser déplacer. Mais Nicodème, il est vraiment comme nous parce qu'il répond « Comment cela peut-il se faire ?» Alors, reprit Nicodème, de nouveau cette objection, je voudrais comprendre comment cela se fait. C'est normal, c'est tout à fait légitime, c'est même souvent le signe de l'intelligence que de poser des questions. Mais Jésus répond ainsi, on est maintenant au verset 10. Tu es maître en Israël et tu ignores ces choses? En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons et nous attestons ce que nous avons vu, mais vous ne recevez pas notre témoignage. Ce cher Nicodème, il voulait des explications qui rejoignaient son intelligence, son raisonnement. Et Jésus, là, quelque part, peut-être qu'on peut dire qu'il l'humilie. Tu es maître en Israël et tu ignores ces choses dont je te parle, cette naissance d'en haut. Et à nouveau, en vérité, je te le dis. Et là, Jésus lui dit, en fait, vous ne recevez pas notre témoignage. Là, il y a quelque chose qui est très important, c'est que la foi, c'est l'accueil d'un témoignage profond, quelque part qu'on ne peut pas discuter, qu'on accueille et qu'on sent quelque part, on sent l'autorité de ce témoignage. C'est Dieu qui témoigne en nous, c'est notre conscience aussi qui résonne. Et de fait, voilà, l'accueil de la grâce, pour accueillir la grâce, il nous faut cette réceptivité, cette bonne volonté et de pouvoir percevoir que Dieu témoigne. Il est là. Si vous ne croyez pas, alors oui, ces paroles, on pourrait les croire dures, exigeantes. Quelque part, Nicodème, il n'a pas d'explication qu'il attendait. Mais je crois qu'au contraire, c'est une miséricorde de Jésus qui lui dit, mais si vraiment tu veux découvrir cette vie qui est la mienne, celle que je donne à mes disciples, il faut que tu rentres dans la foi. Et la foi a quelque chose d'un plongeon. On a l'impression un peu d'un saut dans le vide, risqué. On a le sentiment qu'on risque de perdre quelque chose, peut-être son intelligence. C'est à la fois un plongeon de notre côté, faire le pas, oser, accueillir, et une naissance. Si on accepte ce pas, un petit peu dans la foi, c'est à la fois un plongeon, quelque part, une expérience pour nous qui est difficile, l'acte de foi. On fait un pas dans un milieu qu'on ne connaît pas, et en même temps, cela permet une naissance, et qu'à partir du moment où on accepte de ces pas, un petit peu obscurs, la vie de Dieu doucement va entrer et nous transformer. Alors je continue, alors je suis où parce que j'ai une toute petite Bible. Dans mon voyage, je travaille avec une toute petite
Bible. Une Bible de voyage.
C'est une Bible de voyage. Si vous ne croyez pas quand je vous dis les choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous dirai les choses du ciel? Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. Là, en fait, Jésus va nous faire comprendre la cause de cette vie nouvelle. En fait, au début du dialogue avec Nicodème, il le met directement en face de la vie nouvelle qu'est la vie dans la foi, qui est l'accueil de la grâce. Et il lui dit, voilà, il te faut naître d'en haut. Tu veux vivre de, voilà, tu veux connaître Dieu, il te faut accepter une nouvelle naissance, de te laisser engendrer, de laisser la vie pénétrer en toi, de la recevoir d'une nouvelle manière. C'est pas quelque chose que tu peux capter en te mettant sur la pointe des pieds ou en montant sur une échelle. La vie de Dieu, la vie de la grâce, la vie de la foi, il faut au contraire que tu sois dans la réceptivité et que tu accueilles une vie qui vient de plus haut que toi, une vie qui te dépasse, mais une vie qui va vraiment pénétrer en toi. Et après avoir affirmé ça, Jésus l'a affirmé, on l'avait quand même pas mal développé la dernière fois, mais là ce qu'on n'avait pas du tout vu, c'est que dans ce même dialogue avec Nicodème, eh bien Jésus va lui faire découvrir de manière un petit peu difficile, il faut bien le dire, comment c'est possible. Il voulait savoir comment c'était possible. En fait, Jésus va quand même répondre. Mais il va répondre d'une manière qui est au départ tout à fait énigmatique. Je pense que Nicodème a compris des années après. Il lui dit que nul n'est monté au ciel hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. Il parle de lui. Il parle du mystère de l'incarnation. Il parle du mystère de Noël. Celui qui est descendu du ciel. Ce n'est pas une question de lieu. Ce n'est pas local. C'est Dieu qui descend dans l'humain. C'est Dieu qui... Vous voyez, ce n'est pas local. C'est l'expression, d'ailleurs, Jésus dit, celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. Comme il dit qui est au ciel, c'est qu'en fait, il n'en est pas descendu. C'est Dieu qui s'est fait homme. C'est le mystère de l'abaissement de Dieu qui s'intéresse à l'homme, qui entend les cris de l'homme qui se débat sur la terre et qui descend dans l'humain. Donc là, cette parole, celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, c'est le mystère de l'incarnation. Derrière tout le mystère de la grâce dont nous vivons comme chrétiens, il y a la naissance du Christ. Mais ce n'est pas simplement sa naissance. Ça va être, et Jésus va tout de suite nous le dévoiler, il est né pour nous donner la vie. Et comment il va nous la donner? En nous aimant, en parlant, et surtout en donnant sa vie dans la passion, sur la croix et par sa résurrection. Donc, dans des phrases extrêmement concises et mystérieuses que nous, on lit après coup, au pauvre Nicodème, il a dû être complètement sonné, Jésus dit, donc là, en fait, il vient donc de parler de son propre mystère, qui est le mystère de l'incarnation. Et là, maintenant, il dit, comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque, que tout homme qui croit, ait par lui la vie éternelle. Alors évidemment, si on ne connaît pas du tout l'histoire du peuple d'Israël, on ne comprend pas de quoi il parle. Comme Moïse éleva le serpent au désert. Alors ceci fait référence à un moment très important de la vie du peuple hébreu, qui était dans le désert, sortant d'Égypte, sauvé du Pharaon, mais qui va errer longuement dans le désert avant d'arriver dans la terre promise. Et par moments, dans ce temps au désert, le peuple en a assez. Même quand Dieu donne la nourriture qui vient du ciel et qui s'appelle la manne, il en a assez de manger toujours la même chose. Et il se révolte, et il boude, et il se plaint auprès de Moïse. Il devient totalement sourd, et si bien que Dieu, comme s'il n'y avait que ça comme solution pour retourner ce peuple vers lui, envoie des serpents, et les gens sont mordus, et s'ils sont mordus, ils meurent. Alors évidemment, à ce moment-là, ils réagissent, et ils reviennent vers Moïse, et ils disent « Oui, on a péché contre Dieu, on s'est révolté, on n'aurait pas dû ». Alors, dis quelque chose à Dieu et sauve-nous de cette histoire de serpent, parce que là, on est piqué, c'est des serpents qui sont venimeux et qui nous donnent la mort. Et Dieu dit, eh bien, écoute, tu vas faire un serpent en bronze, tu vas le mettre sur un piquet, sur un mât, et tous ceux qui vont regarder ce serpent en bronze, eh bien, ils seront indemnes de toute piqûre des serpents. Et de fait, c'est ce qui se passe. Dès que les gens sont piqués par un serpent, ils regardent le serpent en bronze et, miraculeusement, ils sont indemnes. Et les serpents venimeux n'ont plus aucune prise sur les Hébreux qui regardent ce serpent élevé dans le désert. Et là, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Il a dit, comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que tout homme qui croit ait par lui la vie éternelle. Qu'est-ce qui veut dire élever le Fils de l'homme? Eh bien, il parle de lui plus tard, Jésus, dans l'Évangile, au chapitre 12, au verset 20. Tournez les pages si fines, c'est très compliqué, mais j'y arrive quand même. Voilà. Jésus, juste après l'entrée triomphale à Jérusalem, juste avant sa passion, annonçant sa passion, dit « C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde, le démon, va être jeté bas. Et moi, élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Moi, élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et tout l'homme à moi. » Le terme grec veut dire les deux. Donc là, Jésus, il parle de quoi? De sa passion. C'est juste avant sa passion. Et il parle de sa passion comme, non pas d'un, comme d'une une exaltation. Il est élevé. Physiquement, il a été sur une croix, sur une petite colline. Donc effectivement, il a été élevé de terre. Mais plus profondément, il a été élevé, exalté, parce que cette passion, il l'a vécue comme une victoire d'amour. Et de fait, il est présenté au monde comme celui qui aime infiniment. Et il va ressusciter. Et donc, ce signe de la croix va devenir un signe d'espérance. C'est le signe de cet amour immense et un signe d'espérance. Alors, je reviens. Comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que tout homme qui croit ait par lui la vie éternelle. Je reviens à cette histoire de naissance et de naissance d'en haut, dont Jésus a insisté et dit, voilà, il vous faut être engendré d'en haut. Il y a besoin d'une naissance qui vient d'en haut. Alors que tu te laisses enfanter, tu te laisses réengendrer. Voilà. Et donc, la clé, la cause, ça va être que le Fils de Dieu s'est fait homme et que ce Fils de Dieu est en même temps le Fils de l'homme et que ce Fils de l'homme, il va mourir par amour pour moi, être élevé et pour les hommes jusqu'à la fin du monde, ce signe de la croix qui symbolise l'amour de Dieu qui se donne, enfin pas simplement qui symbolise, qui est l'expression de Dieu qui se donne jusqu'à porter toutes nos fautes sur la croix, et bien il va être ce lieu qu'il va falloir contempler, regarder, croire au mystère de la croix. Je continue. J'arrive au verset 16 qui est très beau. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. La cause de tous nos biens, c'est l'amour infini de Dieu. La cause de... Voilà, Dieu a tant aimé le monde. Jésus le dit, il l'affirme, qu'il a donné son Fils unique. Quand on aime, on veut le bien de l'autre. Dieu nous aime, il veut notre bien à chacun. Il n'a qu'un désir, c'est à chacun de nous faire du bien. Et quand on aime aussi, on donne et on se donne. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il s'est donné à travers son Fils unique. C'est l'homme qui est aimé, tout homme qui est né, tout homme est aimé de cette manière. Afin que tout homme qui croit en lui, il n'y a aucune restriction. Tout homme, mais qui croit en lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est Le salut, la source de la grâce est offert par le Christ. La délivrance, le salut, la vie est offert par le Christ. Mais là, de notre côté, ce qui nous revient, c'est le mystère de la foi. On avait parlé déjà assez. Voilà. On pourrait poser des questions, je vais continuer un petit peu pour l'instant. Pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas. Dieu ne veut pas qu'on périsse, Dieu veut qu'on ait des vies qui aient de la valeur. Hein. Il a dit aussi, je suis venu pour que l'on ait la vie, qu'on l'ait en abondance. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Jésus, le Seigneur veut qu'on soit des grands vivants. Et il s'agit d'une vie éternelle, une vie qui ne va pas s'arrêter à notre mort. Alors, je continue. Verset 17. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est étonnant comme souvent on voit en Dieu avant tout un juge, parce qu'on a ça dans nos cervelles quelquefois. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu et Jésus est vraiment venu pour sauver, il le dit lui-même, je ne suis pas venu pour condamner le monde, je suis venu pour sauver le monde. Sauver, c'est un terme qui ne nous parle plus beaucoup peut-être, hein. Peut-être qu'on n'a pas l'impression qu'on a besoin d'être sauvé. Peut-être que dans la situation compliquée dans laquelle on est, du Covid, des complications aussi économiques, financières, peut-être qu'un jour, on va peut-être réaliser qu'on a besoin d'être sauvé. Alors, ceci dit, c'est pas que de ça qu'on a besoin d'être sauvé. On a surtout besoin d'avoir nos cœurs sauvés. Nos cœurs qui sont trop durs, nos cœurs qui sont repliés, et toutes les mauvaises tendances qu'on peut sentir qui, dans notre cœur qu'on n'arrive pas à éliminer. Oui, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et comment ? Qui croit en lui n'est pas condamné ? Je tourne une page qui est toute fine. Qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors je continue jusqu'au bout, puis après, j'espère qu'il y aura. Non, je ne sais pas si on aura le temps de questions, mais je vais aller jusqu'au bout du chapitre. On est toujours dans cet enseignement magistral de Jésus à Nicodème, cet homme qui cherche la vérité et qui reçoit cet enseignement. Difficile, hein, très difficile. Si vous êtes un peu perdu, c'est parfaitement normal. Et je crois que c'est lentement qu'on comprend un peu toutes ces réalités. Mais la fin est peut-être un peu plus facile à comprendre et elle est très déterminante. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde. Et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Évidemment, ça nous fait penser au prologue, c'est-à-dire le début de l'évangile, quelques pages avant, où je lis, là je prends le prologue, chapitre 1, verset 9. Le Verbe était la lumière véritable, le Verbe qui est Dieu, et le Fils, le Verbe Dieu, Fils, était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose dans notre intelligence qui est divin. Il y a quelque chose, il y a une lumière dans notre intelligence qui vient de Dieu. Et quelque part, si notre intelligence s'ouvre à Dieu, elle est éclairée. Hein? Et effectivement, Dieu n'hésite pas, il éclaire tout homme de bonne volonté. Donc le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Il venait dans le monde, il était dans le monde. Et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. C'est vraiment, je reviens à ça, mais Jésus nous fait comprendre que il attend de nous que nous accueillions la lumière. Accueillir la lumière. Et il y a un combat en nous, parce que parfois, on peut être comme ces hommes qu'il dénonce. Les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Il y a des moments où c'est bien, même quand on était petit, qu'on faisait des bêtises, on préfère parfois se cacher. Parce que nos œuvres sont mauvaises et on préfère ne pas être vu. Et je crois qu'un des grands virages qui se fait quand on se convertit, c'est que, de manière de plus en plus radicale, on veut la lumière, on veut la vérité, on accepte d'être vu par Dieu, même si on a des œuvres mauvaises, on accepte que la lumière se fasse dans nos vies, on ne se justifie plus, et on n'en a même plus peur de nos ténèbres. Et je vous avais déjà lu, je vais la relire, un passage de la première lettre de Saint Jean, sur cette histoire, un peu sur cette histoire de lumière. Il dit « Dieu est lumière, en lui point de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, nous n'agissons pas dans la vérité. Mais, et écoutons bien, si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire si nous n'essayons pas de nous cacher intérieurement devant Dieu, si nous sommes vrais devant Dieu, si nous ne nous cachons rien, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion avec les uns avec les autres. Beaucoup de problèmes avec les autres vont se simplifier. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Quand on se met dans la lumière, quand on ose être vrai et simple et pauvre et petit devant Dieu, alors, eh bien, Dieu nous pardonne tout. Dieu, Jésus est mort pour nous sauver. Il a répandu son sang pour qu'on soit purifié. N'ayons pas peur de la lumière devant Dieu, mais soyons le plus simple, le plus vrai possible pour qu'il puisse... En fait, c'est une lumière guérissante. La lumière de Dieu est une lumière guérissante et guérit tout sous son passage. Il y a différents types de lumières. Il y a des lumières scientifiques, il y a des lumières... voilà. Mais il y a la lumière qui vient de Dieu et cette lumière-là, elle éclaire l'intelligence et le cœur, et elle lave le cœur, et elle redresse l'intelligence, et elle l'oriente. Donc soyons vraiment, comme chrétiens, des gens qui aiment la lumière, qui n'ont pas peur, et qui soyons pas décevants par Dieu, c'est-à-dire pas des gens qui se cachent parce qu'ils ont peur de leurs ténèbres. Non, n'ayons pas peur de nos ténèbres. Exposons-les à Dieu. Vous savez, les ténèbres, c'est rien du tout, en fait, c'est un manque de lumière. Les ténèbres devant Dieu? Mais qu'est-ce que c'est? Lui, il est lumière. On a des ténèbres? Et alors, appelons-le. Il fait la lumière. Et en faisant la lumière, ben, il fait jour. Il fait jour. Et ce qui était moche est lavé. En effet, je continue. Ce sera les deux derniers versets de ce discours avec Nicodème. En effet, quiconque fait le mal est, H-A-I-T, déteste. Déteste la lumière, ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit dans la vérité vient à la lumière pour qu'il apparaisse au grand jour que ses œuvres sont faites en Dieu. Alors, je peux essayer de résumer tout, maintenant un petit peu ce grand enseignement de Nicodème à Jésus, dont en fait il y a tellement de choses à dire. Mais quand même, devant cet homme de bonne volonté, intelligent, Jésus fait comprendre qu'il y a un pas à faire, ou plutôt une vie à recevoir, se laisser engendrer, recevoir la vie de Dieu. Ça, c'est quelque chose à expérimenter, quelque chose que l'on accueille. Une conversion au Christ, c'est toujours l'accueil. L'accueil de la vie, l'accueil de la lumière, l'accueil du pardon. Et donc, pour nous, c'est tout le temps, quelque part, de nous remettre devant le Seigneur pour renaître sans cesse d'en haut. Et puis, il a montré à Nicodème qu'en fait, il a fait comprendre, mais c'est vrai que ce n'est pas évident à discerner tout de suite, c'est qu'en fait, c'est lui qui apporte cette vie. Et que lui, Jésus, il est Dieu fait homme, Dieu qui descend dans l'humain, qui descend dans la souffrance de l'homme, qui prend la souffrance sur lui dans le mystère de la croix et qui va ressusciter tout ce qui est cassé, brisé en nous. Donc quelque part, on est centré, notre foi chrétienne, elle est centrée sur les mystères de l'incarnation du Christ et du mystère de la croix, Jésus crucifié et ressuscité. On a là les deux mystères essentiels qu'on fête à Noël et qu'on fête à Pâques. Et ce qui nous est demandé, à nous, c'est de regarder la croix, de nous approcher de la croix, de croire en ce Jésus qui a donné sa vie pour nous, et puis d'être des personnes qui cherchent la lumière, qui ne se cachent pas de Dieu, qui viennent vers lui, parce que voilà, c'est une chose là que le Seigneur... Je ne sais pas si on a le temps de questions, en fait, Jérôme, maintenant.
Oui, alors moi, j'en avais juste une, parce qu'on arrive à la fin, malheureusement, ça va vite. Dans les différentes controverses qui ont opposé d'ailleurs Jésus aux pharisiens, quand Jésus finalement enseigne, c'est pas tellement, on n'a pas l'impression que ce soit ça qui soit le plus dérangeant pour les docteurs de la loi qui sont autour de lui. C'est quand Jésus enseigne cette lumière, quand il dit, et qu'il, c'est ce qu'on lui reproche, de prétendre...
Et quand il dit quoi, pardon ?
Quand il dit qu'il est la lumière lui-même, en fait.
Oui. Tout à fait.
Et c'est à partir de là que ça bascule et que finalement la discussion devient très polémique parce que c'est insupportable à entendre pour certains, en tout cas pour certains des docteurs et des pharisiens.
Tout à fait. En fait, quand on lit l'évangile de près, surtout l'évangile de Jean, il y a toujours des moments où on ne comprend plus. Que Jésus soit un homme très intelligent, qu'il apporte la lumière, qu'il enseigne, ça passe.
Voilà.
Mais qu'il ose dire « je suis la lumière », là on dit « mais qu'est-ce que tu racontes ?»
Tu te prends pour Dieu, etc.
Voilà.
On a le reproche.
Donc à chaque fois, vous avez raison, à chaque fois, on est capable d'écouter tant qu'on comprend. Et en fait, Jésus nous met régulièrement devant le mystère. Je suis Dieu. Je suis la lumière du monde. Tous les « je suis » qu'il a dans l'Évangile, c'est impressionnant. Et même le « je suis » tout court. Alors que dans l'Ancien Testament, c'est que le nom de Dieu, quand on lui a donné son nom, je suis celui qui est.
Oui.
Eh bien, en fait, et c'est là, et je crois que c'est ça le mystère fou, c'est qu'en fait, ce Jésus qu'on regarde, mais on ne peut pas le regarder simplement comme un homme, ne nous sauve pas, ne change rien. C'est un homme très intéressant qui dit. Mais non, c'est d'être devant Jésus, devant le bébé, même devant le bébé Jésus dans la crèche, se mettre à genoux devant bébé Jésus. Et de dire, oui, je sais que tu es la lumière qui vient dans le monde. Tu es Dieu fait homme. Je l'accueille. Je le crois. Je ne comprends pas. Je crois. Et je crois, comment je fais? Je prends ce bébé dans mes bras. Si je suis catholique, pratiquant, je vais à la messe. Oui, je te reçois dans l'hostie. C'est toi, Jésus. Je crois. Tu es mon Dieu. Tu es mon sauveur. Et notre foi grandit avec tous ces actes de foi qui sont à chaque fois quelque part une épreuve pour notre intelligence. Ça ne brise pas l'intelligence, mais ça la dépasse. Et dans notre vie chrétienne, on a cet effort constamment de développer notre intelligence au plus, mais régulièrement devant Jésus, eh bien, quelque part, l'intelligence tait. Et on a cette certitude, ce témoignage en nous qu'on ne se trompe pas. Mais régulièrement ressortent les questionnements. On est à la messe, on dit est-ce que c'est vraiment le Christ, le corps du Christ ? On refait des camps comme le Nicodème. Comment cela peut-il se faire ?
Mais c'est pour ça que c'est emblématique ce passage que Nicodème est un homme très intelligent.
Exactement. Mais ce qui est plein d'espérance, c'est que cet homme très intelligent, qui au départ semble résister, et pose des « comment ça se fait ?»« Comment est Jésus ?» Il va assez fort là-dedans. Et bien, on le retrouve plus tard. Il va défendre Jésus. Il va être au pied de la croix. Il va embaumer Jésus avec Joseph d'Arimathie. Il va être fidèle jusqu'au bout. Ce sera sûrement un saint. Voilà, et c'est un saint d'ailleurs. Après coup. Donc, quelque part, il nous encourage. Il nous encourage à vivre ce chemin dans la foi qui est exigeant, qui nous demande cette humilité, qui demande à la fois... de l'intelligence, la coopération de l'intelligence, mais surtout l'accueil d'un témoignage tout au fond de notre cœur, que c'est vraiment la vérité, que cet enfant est Dieu, que l'Eucharistie, c'est le corps du Christ. Et c'est quelque chose de difficile, mais c'est quelque chose qui est vivifiant. Et on voit les fruits de cette naissance, parce que petit à petit, en nous se développe le chrétien. Voilà. Mais voilà, je pense que vous avez raison, c'est emblématique. C'est intéressant aussi que, vous voyez, sont ciblées dans ces paroles l'incarnation et la croix. Voilà, deux points pour nous d'attention, de méditation, de contemplation.
Et en tout cas, merci beaucoup, Sœur Marie-Emmanuelle. On arrive malheureusement au terme. Merci infiniment pour ce bel enseignement et cette deuxième partie. Je crois que ça valait quand même la peine de reparler de
Oui,
cette
c'est grâce
rencontre.
à vous, Jérôme, parce que je comptais passer à la Samaritaine, et après, je me suis dit, voilà, on va revenir à Nicodème.
Alors vous nous parlerez de la
Voilà.
Samaritaine donc la fois prochaine alors.
La fois prochaine, ce sera la Samaritaine.
Merci.
Bien, bonne soirée à vous tous.
Merci, à bientôt.
Merci, Jérôme.